Baladomélie, courte méditation exégétique.
Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose un petit temps de promenade exégétique à travers les textes de dimanche prochain qui vont nous proposer un nouveau point de départ. Un nouveau point de départ dès la première lecture avec cet extrait du deuxième livre des Chroniques. C'est un livre qu'on lit peu, souvent, et qui nous raconte comment la déportation à Babylone s'est terminée par le retour, 70 ans plus tard, du peuple en terre promise grâce à l'édit de Cyrus, roi perse, ayant renversé Babylone en 536 et ainsi permis au peuple d'Israël de revenir à Jérusalem et sur la terre d'Israël. Le livre des Chroniques est un livre du 4e siècle à peu près, qui reprend beaucoup d'éléments qui nous sont déjà présentés dans les livres des rois, en omettant délibérément de raconter toute l'histoire du royaume du Nord, mais en ne se concentrant que sur le royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Judée ayant Jérusalem pour capitale. Et il raconte ça comme un cri d'espérance et de joie, puisque le Seigneur habite au milieu du temple, donc au milieu de son peuple. Dans l'ordonnancement des livres de la Bible, le livre des Chroniques est le dernier livre de la Bible hébraïque. Ainsi, le passage que nous avons est la toute fin de la Bible hébraïque. Ça se termine par cette phrase « Qui donc fait partie de son peuple ? Que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. » Voilà, ce livre est un appel à monter à Jérusalem, à revenir au Seigneur. Rappelez-vous l'importance du verbe « revenir » que nous avons vu à propos de la liturgie du mercredi des cendres. Alors, quels sont les faits historiques par-delà tout cela? En 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor rase le temple, déporte rois, prêtres et autres notables, les forgerons aussi, pour éviter qu'on fasse des armes. Et à peu près 10% de la population du pays est déportée, d'après les chiffres que la Bible nous donne. 10%, c'est pas tout le peuple, mais c'est considérable quand même. Hein. Le prophète Jérémie, au moment de cette catastrophe, en 587, prophétise que ça durera 70 ans. Deux interprétations possibles. Le temps de la vie d'un homme, ou bien trois générations. Il dit, habitez cette terre, cette ville de Babylone, mariez vos fils, que vos petits-fils, que vos fils se marient, pareil pour vos petits-fils. Voilà, il invite à bâtir et à planter, à s'installer, parce que ça durera 70 ans. De fait, c'est à peu près la durée entre le moment de la déportation et l'avènement du roi Cyrus sur Babylone. Ce thème des 70 ans va faire son chemin et il est interprété dans notre livre des Chroniques comme les sabbats qui n'ont pas été respectés. Voilà. Depuis que le peuple est entré en terre promise avec le roi Josué, il n'y a pas eu de sabbat respecté. L'institution du sabbat est une institution qui est née pendant l'exil. Donc c'est un véritable anachronisme que de prononcer un tel jugement. Il s'agit bien de dire le temps de l'exil est un temps de repos sabbatique pour permettre à la terre de récupérer. Des éléments sont importants dans le livre des Lévites, chapitre 25, justement à propos de l'année sabbatique. Il faut donner du temps à la terre pour qu'elle vive le repos que le peuple doit vivre. Il faut donner du temps à la terre pour qu'elle vive le sabbat, le repos que le peuple lui-même doit vivre chaque semaine, le jour du sabbat. Ainsi, l'exil est un temps de reprise, de récupération pour redécouvrir l'alliance, pour redécouvrir la bénédiction. En réfléchissant ainsi sur les causes de l'exil, il s'agit de lui donner du sens. En tout cas, c'est bien un point de départ. Maintenant que tous ceux qui font partie de son peuple, qu'ils montent à Jérusalem. Dans la deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, nous invite à réfléchir et à méditer sur la richesse de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Quel est le point de départ de notre vie chrétienne? C'est que le Christ est mort par suite de nos fautes et qu'il nous a donné la vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Voilà, ce texte reprend des vérités de foi, pourrions-nous dire. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus. Voilà, on réaffirme des choses simples qui sont le point de départ de notre adhésion à la personne de Jésus. Un des mots importants, c'est celui de la grâce, le don. Et il commence à prendre une connotation plus précise, plus théologique. Dans les premières lettres de Paul, on peut penser à la lettre aux Galates, le mot grâce a une connotation et une saveur très proche de son sens familier, habituel. La grâce, c'est une chance, c'est une faveur, c'est un bonheur. L'empereur octroie des grâces, octroie des faveurs, souvent des remises d'impôts d'ailleurs. Mais bon, pas toujours. Dans la lettre aux Éphésiens, on commence à donner à ce concept une caractérisation théologique précise. Par exemple, au chapitre 1, verset 6, c'est la grâce dont nous avons été graciés. Voilà. Dieu donne gratuitement, gracieusement. Vraiment, on réfléchit sur le terme qui devient la caractéristique même du geste que Dieu fait en faveur de son peuple. Par la suite, la théologie, notamment au Moyen-Âge, va encore aller plus loin dans cette caractérisation de la grâce. Ici, accueillons que le point de départ de notre vie avec le Christ, c'est la grâce, le don gratuit et gracieux que Dieu nous fait. En vue de quoi? En vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous pratiquions. En nous créant, en nous donnant sa grâce, Dieu envisage le bien que nous allons faire. Nous sommes prédestinés à être des fils et des filles du Père, c'est-à-dire des êtres libres qui mettent en œuvre le bien et la bonté qu'il aurait faite. On est bien avant les querelles qui eurent lieu par la suite sur la liberté et la prédestination. Ici, il s'agit de dire que Dieu nous a créés en nous mettant à une place, à une limite précise, celle de la relation filiale. Non pas pour dévisager si nous allons respecter les choses, mais parce qu'il envisage le bien que nous allons faire. Et il est prêt à se laisser surprendre par le bien que nous allons faire. La grâce, c'est le point de départ pour les bonnes œuvres que nous allons déployer tout au long de notre vie. Dans l'évangile de Jean, nous avons un extrait du chapitre 3 qui nous raconte l'entretien entre Jésus et Nicodème. On est à la fin de cet entretien. Et là encore, il s'agit de nous donner un point de départ. Ce point de départ, c'est le Fils de l'homme élevé de terre sur la croix. Dans l'évangile de Jean, le Fils de l'homme connaît l'élévation, l'ascension. Et avec une ironie qui lui est caractéristique, la première étape de cette élévation, c'est quand on a élevé le corps de Jésus pour le mettre sur la croix. Et le Père a élevé le Fils pour le faire monter jusqu'à lui. Eh bien, il nous faut contempler cette élévation en deux temps. Et pour cela, Jésus prend une comparaison, il prend celle du serpent d'airain, ça nous est raconté dans le livre des Nombres, quand le peuple traverse une région infectée de serpents, il est mordu, et on nous explique que c'est en raison des murmures que le peuple adresse à l'égard de Moïse en coupure de son. On nous explique que c'est en raison des murmures, c'est-à-dire du manque de foi du peuple à l'égard de l'œuvre de Dieu. Ils sont fatigués de manger la manne, et donc ils sont mordus par les serpents. Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent de bronze, élève-le, et tous ceux qui le regarderont seront sauvés. Et donc on a déjà ce couple, voir, croire, salut. Et ce que Jésus dit dans cet évangile, c'est qu'il faut voir l'élévation du Fils de l'homme dans cette première comme dans cette deuxième étape, sur la croix. Il faut voir cela pour croire l'amour dont nous sommes aimés. Et les verbes voir et croire sous-tendent tout entier l'évangile de Jean. Quand l'évangéliste arrive devant la tombe vide, il voit et il croit. Et à la fin, au chapitre 20, Jésus dit à Matthieu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et donc il y a vraiment toute une catéchèse, une réflexion. On ne croit pas par ce qu'on voit, mais on a besoin de voir quelque chose pour croire. Mais on a croire, c'est voir aller au-delà de ce que l'on voit. Pour l'instant, l'évangéliste nous invite à nous tenir sur le point de départ de la vie chrétienne. Jésus, dans son élévation, hissé sur la croix, relevé par le Père pour qu'il arrive jusqu'à lui. Ce point de départ permet d'entrer dans ces versets qu'il est bon de méditer, de s'approprier. Hein. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé, pour que tout le monde puisse arriver jusqu'à la pleine lumière de l'amour de Dieu. Pour ça, il faut accepter de se rendre à ce point de départ qu'est la croix, qui vient faire la lumière de nos vies. Alors parfois, on n'a pas envie que les ténèbres de nos cœurs soient dévoilées, mais non, justement, justement, la lumière va dissiper les ténèbres, la lumière va chasser les ténèbres, la lumière va s'établir en nos vies progressivement. C'est en nous tenant constamment, régulièrement à ce point de départ de la vie filiale et fraternelle que progressivement, l'existence de chacun deviendra lumineuse. Voilà quelques réflexions à partir des textes que nous célébrerons dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche. Merci.